Bien, je reprends le sujet de ce matin. Le chemin de l'allée dans le quatrième règne, symboliquement 700 vies, dans le cycle de la mère, dans le cycle du fils 70 vies, où là vous avez le processus de fusion entre l'âme et la personnalité. Et ensuite, la personnalité fusionnée, donc l'être conscient sur le plan terrestre, va mettre symboliquement 7 vies pour s'identifier au Père, ce qui vous donne les 777 vies pour sortir du règne humain. Alors, pour arriver à être une unité de vie en pleine maîtrise des mondes qu'elle appréhende, la monade humaine doit énergétiquement, géométriquement équilibrer les triples aspect de sa manifestation, c'est-à-dire non soit les trois corps qui constituent sa personnalité, les trois aspects du mental, de l'âme, le mental concret ou mental lunaire, l'âme, et manas, le mental supérieur, les trois aspects de l'esprit, manasique, bouddhique ou christique et atmique. Alors, si vous êtes un peu gêné par les termes, qui sont des termes en fait de l'hindouisme, c'est parce que par vigilance de ne pas créer de nouvelles séparations au niveau des termes, quand un terme n'existe pas en Occident, on utilise le terme d'Orient. Mais sachez que manas c'est mental, que bouddhique ou christique, vous voyez bien l'aspect amour, et atmique c'est aspect volonté. Quand la vie a équilibré sa triple manifestation de façon équilatérale, eh bien, vous avez à chaque fois, voyez-vous, ce qui se répète, c'est-à-dire 3 fois 3. Si bien que, au niveau numérologie énergétique, l'être sortant du règne humain a réalisé 9999. Et c'est pour ça qu'à l'opposé, vous avez le chiffre de la bête qui est 666. Pourquoi ? L'énergie qui vient du pôle esprit, de la racine de vie, descend comme ceci. L'énergie qui vient du pôle matière, il remonte comme ceci. Quand vous avez l'infiniment petit, c'est-à-dire les lunaires qui dominent dans le corps physique, dans le corps émotionnel, dans le corps mental concret, eh bien l'homme a un comportement de bête. Puisqu'en fait, c'est tous ces lunaires qui sont des cavales folles et qui emprisonnent l'être. Hein, vous avez la symbolique du pourquoi 666. C'est en fait les vies de l'infiniment petit qui remontent. Et sur le plan énergétique, vos triples aspects sont déterminés par des lignes d'énergie qui sont déséquilibrées tant qu'il n'y a pas maîtrise. Alors que quand il y a réalisation et maîtrise, eh bien en fait tout est en équilibre. L'être du cinquième règne a compris, intégré, appréhendé, maîtrisé l'usage des énergies et forces qui le traverse, qui l'environne et qu'il reçoit. Ce qui veut dire qu'il va atteindre un état de méditation permanente. Ce qui en Orient est appelé l'état de samadhi. S-A-M-A-D-H-I. C'est-à-dire un alignement constant, naturel. Ça ne veut pas dire qu'il vit son quotidien en méditation, je dirais, spirituelle, dynamique, ça veut dire qu'il n'est jamais à quitter le haut niveau de conscience qui est le sien. En d'autres termes, il ne tombe pas en aveuglement. Ça veut dire qu'il n'oblige pas la source de vie qui est en lui, les vies transcendantes dont il peut être le canal, à fermer la liaison. Alors je voudrais dire de l'autre côté, n'imaginez pas qu'un tel être, appelé communément initié, donc aux lois de la vie, il mène une vie ordinaire du quotidien. Il ne faut pas penser un instant qu'il est 24 heures sur 24 sur le pont. Simplement, à des moments bien précis, il assume ce qu'il a conscience et les rendez-vous qu'il a intégrés. Quand je parle de rendez-vous, c'est les rendez-vous avec la source verticale. Quand un être humain déroule l'analyse, la mise en force, la synthèse de toutes
un processus de travail dans tous les domaines, il conduit à un processus de méditation. Méditer, c'est être fixé sur un sujet, sur le déroulement de cette étude, en n'étant pas détourné par d'autres attraits. Il y a donc un phénomène de concentration. Quand ce travail revêt un alignement intérieur, vertical, cette méditation est dite spirituelle quand elle concerne l'âme et par conséquent l'énergie d'amour-sagesse, elle prend une dimension divine quand elle concerne l'aspect volonté divine. L'être qui entame les 70 vies, c'est-à-dire le virage, et par conséquent le stade de l'aspirant à son être intérieur, le stade de montrer qu'il sait, qu'il commence à se discipliner, donc en probation. À ce moment-là, il appréhende ce qui est communément appelé la prière. On va voir la différence entre la prière et la méditation. La prière est une réponse à l'aspiration de son être, mais malheureusement, et c'est logique, elle revêt, du moins dans ses premières phases, un intérêt personnel. Je veux dire par là, un intérêt pour soi-même ou pour ses proches. Puis elle va évoluer pour des valeurs spirituelles abstraites, puis l'être entrera dans la phase de méditation. La méditation est pleinement assumée quand l'être sait qu'il s'offre comme canal à des énergies venant des plans supérieurs. On va dire que la différence fondamentale, c'est que la méditation, quand elle est pratiquée en connaissance de cause, en fait, l'être fonctionne en tant que centre rayonnant d'énergie. Et bien évidemment, au sein d'un cercle énergétique beaucoup plus vaste, appelé logos planétaire. Quand la personnalité a fusionné avec son être, là entre véritablement le processus de méditation. Son être va l'emmener au contact du Père. Ce processus de méditation est l'acte naturel de l'être du cinquième règne en tant que centre d'énergie. Nous pouvons dire que quand un être, dans les 12 secondes, veille à la qualité de l'énergie qu'il va rayonner, eh bien, il est en état de méditation. Alors, vous voyez que cet état peut apparaître à la première compréhension comme étant difficile, pesant et autres, et en fait, il faut savoir que c'est tout l'inverse. C'est cet état qui, se réalisant, va faire que votre espace mental sera comme un ciel bleu, non encombré de tas de lutins du corps physique, du corps émotionnel et du corps mental qui, comme sur la place de la Concorde, les voitures, n'est-ce pas, débarquent à tout bout de champ en disant « pense à moi, faut t'occuper de moi, regarde ça ». Donc dans le phénomène de méditation, il faut comprendre que dans un premier temps, c'est ce qui amène l'apaisement du mental. L'état de quiétude mentale, ce n'est pas, comme certains agités du mental le pensent, de traiter X sujets à une vitesse grandiose, parce que là, on est dans l'hypermentalité. Nos technocrates n'en peuvent plus d'avoir une place de la Concorde. En fait, si vous voulez, il y a un phénomène technique très simple, c'est qu'il y a dilution du souffle énergétique. Si vous avez à pousser 10 idées à la fois, il y a une division par 10 de la poussée énergétique. Ce qu'il faut arriver, c'est à ce que, je prends l'image parce qu'elle sera beaucoup plus à illustrer la chose, il faut dire « je suis celui qui orchestre ma place de la Concorde » et « je ne fais rentrer que ce qu'il m'importe de traiter ». Alors bien évidemment, il y a un phénomène à appréhender, c'est que pour être dans ce monde physique, dans ce monde émotionnel, dans ce monde mental, nous avons nos sens. Et nos sens, en permanence, bien sûr, sont des regards, des observateurs du monde qui nous environne, mais ils nous font entrer en permanence des informations. Hein, si vous observez l'oreille, il y a un bruit qui vient du dehors, quelqu'un tousse, ainsi de suite, vous voyez. Mais en fait, tout ça, c'est aussi pour diluer l'énergie d'attention. Ce qui veut dire, si vous voulez, que pour mobiliser pleinement la puissance énergétique qui sera mise à votre disposition, eh bien, il y a un phénomène de concentration. L'exercice est d'arriver un jour à méditer dans un lieu public où l'environnement est bruyant. Quand vous serez arrivé à ça, ben vous pourrez dire que, en fait, vous pouvez vous aligner là où vous le souhaitez.
Représentation mentale.
Ben, c'est le propre des lutins, ça. Chacun fait avec ce qu'il a accepté. Donc toutes nos vies mineures, tous nos lutins occupent le château. Et par conséquent, il s'agit justement de clarifier. Il faut être son propre observateur et dire à quoi je joue là. Je suis en train de jouer à quoi là? Et je suis en train de jouer avec quoi? Et c'est pour ça, si vous voulez, que les 12 secondes sont le temps, on va dire, opportun pour exercer le discernement. Nos lutins, nos vies mineures de nos corps, ce sont artificiellement nos représentants actuels. Et par conséquent, il faut faire attention à clarifier ce qui doit être encore clarifié.
Donc si je comprends bien, il faut autant gérer les flux entrants que les flux sortants.
C'est-à-dire, les flux entrants, ça va être ton environnement. Soyons pratiques. Je suis en échange humain. Quelqu'un m'annonce tel ou tel problème extérieur ou me concernant. Le sage va veiller à symboliquement poser sur la table ce qui vient de l'autre. Parce qu'il y a un piège, c'est que le manque de confiance en soi va faire qu'on prend pour vérité ce qui nous est dit. Et là, nous tombons dans ce qu'on évoquait ce matin, les formes pensées collectives. On se réfère aux autres. Alors, en fonction de ce qui est avancé, si on n'a pas ce réflexe, on va réagir. Donc, simplifions le sujet, on se fait traiter de con. Si on prend pour vérité, on réagit et éventuellement on envoie un pas à l'autre. Il peut être mental le pas, hein, mais bon. Si on est un peu plus mal luné, on va être là, toi tu perds rien pour attendre. Et si on agit en sage, alors qu'on s'est fait agresser, tendre l'autre joue, c'est comment puis-je aider l'autre à être meilleur. On doit comprendre que notre parole, c'est de l'énergie. On doit comprendre dans ce schéma de découvrir qu'on est un centre d'énergie, un, on veille à n'utiliser que des énergies positives, relevant des aspects du vrai, du beau, du bien, du pur. Là où ça se complique, c'est que l'être veille à ne pas utiliser des énergies négatives, donc l'opposé de ces aspects-là, mais il est conscient aussi qu'il doit veiller à ne pas en faire générer aux autres. Exercice plus difficile. Parce qu'on est responsable de ce que l'on a fait générer à l'autre. Si on fait générer du négatif à l'autre, tout le monde fait pipi dans le bocal. Le négatif met deux buts. Il n'y a que ça qui compte. Il lui dit, vous avez utilisé ma source énergétique. Vous avez fait du faux tous les deux. Allez, c'est moi qui marque des points. Oui, mais c'est ça la réalité du monde, si vous voulez. C'est que vous avez 6 milliards d'individus qui font pipi dans le bocal tous les jours. Et après, ils sont là à dire, ah, le bocal, il est lourd à vivre. Donc faites attention, c'est à la fois de ne pas générer, mais de ne pas en faire générer à autrui. D'où, si vous voulez. Dans sa démarche, le sage, l'être d'amour qui veille aux justes relations, pourra être exigeant, sévère, dur et silencieux.
Exigeant envers soi-même.
Exigeant envers soi-même. Mais il faut faire attention. Exigeant ne veut pas dire rigide. C'est-à-dire que le sage veille à bien faire ce qu'il a à faire, mais il ne se prend pas au sérieux. Et qu'il faut faire tomber des images, si vous voulez, complètement erronées. Le père, quand il se manifeste physiquement, c'est un adolescent de 18 ans qui sait être gai, joyeux, plein d'humour et de finesse d'esprit. Donc quand on a bien fait ce qu'on avait à faire, eh ben, on ne se prend pas au sérieux. Et comme vis-à-vis de nos grands frères, nous sommes des enfants, eh ben, on a le droit, comme on dit, à la jeunesse. Il faut que ce monde retrouve la joie, qui est une qualité de l'âme. La personnalité cherche le bonheur, l'âme vit dans la joie. N'oubliez pas ceux qui souffrent. Ce n'est pas notre être, c'est nos vies mineures. Quand vous avez l'impression d'être en souffrance, en fait, c'est vos vies mineures en vous qui se lamentent. Oh là là, c'est épouvantable ce qu'il nous arrive.
C'est la même chose sur le plaisir, alors.
Oui, le plaisir. Bon, attends, il faut faire attention, parce que le plaisir, c'est un panel qui peut aller à des dimensions spirituelles. Mais on va dire que communément, le plaisir est associé au désir.
Donc il génère de la souffrance.
Et s'il est lunaire, il générera de la souffrance, puisqu'en fait, c'est une mise en dépendance de toi en tant qu'être. Alors, vous voyez bien le crescendo, c'est-à-dire que, quelle est la démarche de l'être d'amour ? C'est bien sûr de pratiquer de justes relations, de ne pas faire à autrui ce qu'il n'aimerait pas. Bon. Mais quand l'être devenu sage devient un seigneur de compassion, sa démarche c'est d'aider l'autre à devenir meilleur, au-delà des réactivités de l'autre. Puisqu'en fait il sait très bien qu'étant un centre d'énergie, cette énergie va activer chez l'autre les deux aspects positifs et lunaire. Si bien qu'un sage est techniquement provocateur.
Insidieusement.
Tu crois ? Tu crois insidieusement ?
Ben, l'autre...
Il en est conscient, le sage ?
Oui. Mais c'est l'autre qui...
Ah oui, ben ça... parce que, sur le plan énergétique, il y a un échange permanent. Hein, et évidemment, dire celui qui approche, il est mis en contact avec une... Et donc, ces lunaires chauffent autant que... C'est pour ça qu'à la pleine lune... Hein, vous verrez que c'est le moment où celui qui donne la vie à la planète est en profonde méditation pendant les 5 jours, et c'est pour ça que dans les hôpitaux, vous avez des agitations lunaires. Alors, le Seigneur de compassion sera exigeant, il deviendra sévère s'il est conscient que l'hôte peut le faire mais ne le fait pas, dur s'il recommence alors qu'il sait tout ça, et puis s'il n'y a plus de réponse possible, à ce moment-là, le sage retourne au silence. Mais par contre, il peut très bien continuer sa tâche, mais sur le plan mental. C'est-à-dire qu'il pense, l'homme aujourd'hui étant atrophié dans sa réelle dimension, ignore qu'il est fondamentalement télépathe, et qu'il n'y a aucune séparativité, si vous voulez, par la pensée. À part que vous dites simplement Christine, Michael, et puis pouf, ça y est, c'est beaucoup plus rapide. Bon. Donc ça veut dire que vous projetez à l'autre ce que vous allez émettre. Alors, bien évidemment, le silence, eh bien, ça va être cette attitude d'entourer de façon bienveillante celui qui, pour l'instant, n'est pas récepteur. Vous voyez jusqu'où va, en fait, le rôle de penseur. Bien sûr, dans la pratique, ben, vous savez, hein, c'est classique. Ah tiens, j'ai pensé à toi ce matin.
Donc c'est un silence nourri.
C'est un silence de lumière. Pensez, quel est l'autre ? L'autre, il a une faiblesse. Bon, il ne voit pas, il faut bien comprendre qu'il n'y a rien de plus enfantin que de dire, oh, mais pour moi c'est simple son problème. Bah, oui, parce que ce n'est pas les mêmes faiblesses. D'avoir quelqu'un qui est faible dans tel domaine, qui aura son verre très plein de l'autre côté, et inversement, donc vous comprenez ? Bon. Et il faut donc faire attention à la nuance entre la critique et l'analyse. La critique, c'est destructeur. Si les hommes pouvaient savoir la puissance destructrice de la critique, dont les fondements sont bien souvent... Je ne vois pas chez moi ce qui me dérange chez l'autre. Entre êtres, on peut analyser une difficulté de l'autre. Ça veut dire ne pas le juger. Critiquer, c'est juger. Ne pas le juger, mais analyser quel est le problème qui se pose au niveau faiblesse. Et dans un esprit vraiment fraternel. Cette analyse, si elle est faite à deux ou à plusieurs, eh bien elle est projetée à l'autre. Elle est projetée. C'est de l'énergie. Ce que j'évoque là, c'est pour vous montrer, dans l'application pratique, ce que va être le champ de présence de l'aide du cinquième règne.
Je voudrais donner un exemple personnel que j'ai vécu comme ça. Je me suis heurtée avec un beau-frère, et j'avais de la rancœur. Même quand je ne voyais plus, le problème n'était plus là, puisqu'on ne se voyait plus, je l'avais toujours. Et puis, bon, bah, j'ai travaillé dessus, et puis un jour, je dis, oh, ça y est, je crois que je peux le revoir, parce qu'on ne s'est pas vu pendant 3 ans. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de réunion de famille ensemble. Toute la famille, hein, dans la famille de ma belle-famille. Et puis un jour, j'ai dit à mon mari, bah, écoute, ça y est, je crois que je peux revoir ton frère, je crois que j'ai... Bon, ça, je pense, peut-être ça peut s'appeler le pardon, mais c'est pas le pardon, c'est que moi, j'ai vu ma part de responsabilité dans ce qui s'était passé, et que lui était un élément déclencheur qui m'a dérangé, mais que... Et puis, une réunion de famille, ça y est, qu'on se revoit, pour dire c'est terminé, je suis prêt. Et j'osais pas, mon mari a téléphoné, et puis mon beau-frère a dit, ah écoute, ça fait 15, mais j'osais pas non plus l'appeler. Donc il a entendu que moi j'étais prête, sans le savoir, au même moment, le jour où je l'ai exprimé. Je n'ai pas attendu de lui quoi que ce soit.
Non, non, t'as entendu.
Peut-être, peut-être. En tout cas, moi, peut-être, mais moi j'ai entendu que moi j'étais prête. Et bon, alors, pardon, mais je sais que...
Alors, si je peux me permettre... Regardons entre les lignes ce qui est évoqué. Des êtres qui ont eu des relations difficiles, voire agressives, genre ennemis, peuvent se retrouver dans un contexte familial pour dénouer le conflit. Et bien évidemment, comme la Terre est un champ d'expérience, il y aura mise en situation. Vous comprenez ? Il faut laisser de côté l'idée que tout il est beau, tout il doit être gentil. C'est la même naïveté que quand l'être vient, il est tout pur, tout beau de sa première vie. Et que par conséquent, il y aura mise en situation, on va dire, des ennemis. La finalité de se trouver dans le cercle familial, c'est justement d'arriver à dénouer. Alors, le mot essentiel qui a été prononcé là, c'est pardon. Pourquoi ? Parce que techniquement, quand il y a eu agression, il y a eu flèche du négatif qui a pénétré l'atome permanent concerné de l'être. En d'autres termes, il a une plaie ouverte, avec une flèche dedans. Et cette flèche, voyez-vous, elle a ses ergots, hein, je prends l'image, donc elle pénètre, comme un hameçon. Elle est dedans. Et tant qu'il n'y aura pas libération du point d'ancrage du négatif, c'est-à-dire que le négatif vous a vacciné, la seule façon d'éliminer l'emprise du négatif, ça s'appelle le pardon. Parce que le pardon est un acte d'amour qui fait que techniquement, l'emprise du négatif peut se retirer. Il faut toujours se rappeler qu'en tant qu'être d'amour, nous avons à nous pardonner et nous avons à pardonner. Nous avons à nous pardonner parce que des ressentis imaginaires font qu'on culpabilise. En fait, si vous voulez, tout est vu d'en bas, vu d'en haut. Vous avez, je prends un exemple, vous avez une jeune femme. Elle a fait un parcours jusqu'à présent tout à fait superbe. Elle réussit, tout ça. Puis, d'un jour, elle est violentée. Vue d'en bas, elle est souillée. Vue des gens dits bien pensants, ça peut aller jusque ça leur fera du bien un peu à eux, là. Ils l'ont un peu trop superbe. Vue d'en haut, cette tête, avant de venir, dans une vie passée, a violenté. Elle est grise. Elle a choisi dans cette vie d'avoir l'épreuve. Si elle l'assume correctement, elle sera débarrassée de cette faute du passé. À partir de là, elle vient de subir l'épreuve, elle l'assume bien, eh bien, elle est beaucoup plus claire. La lumière de la vie peut passer beaucoup plus facilement en elle. Est-ce que vous voyez l'inversion totale entre la réalité vue d'en haut et la réalité illusoire d'en bas ? Hein ? Mais pour revenir, c'est l'essentiel. Alors bien sûr, vous dire, oui, mais tu nous aides à tricher un peu puisque tu nous dis qu'il faut le faire. Non, il faut que ce soit spontané, c'est-à-dire il faut comprendre que l'ennemi qui vient nous livrer l'épreuve, en fait, c'est un agent libérateur de faiblesse en nous. Et c'est pour ça qu'il faut aimer nos ennemis. Comment voulez-vous que l'on puisse solder nos erreurs, comme par exemple un viol, si on n'a pas un violeur ? Bien évidemment, je ne parle pas de lui qui, de toute façon, a lui-même écrit son futur. Hein, mais pour rester, si vous voulez, sur le sujet, il faut bien comprendre le processus. Ce qui veut dire que dans la traversée du règne humain, dans une traversée de vie, eh bien, on peut progresser comme on peut régresser. Mais il faut remercier notre adversaire, parce qu'il nous aide à progresser.
On a pleuré tous les deux.
C'est bien.
L'amour qui nous a été donné pendant dans ces 3 ans.
Non, mais je trouve que l'exemple personnel est tout à fait révélateur. Et je pense que le fait de tomber, on va dire, fraternellement dans les bras de l'un de l'autre, c'était la meilleure manière de marquer le pardon.
Et aujourd'hui, en famille, quand on se voit, chaque fois, il y a toujours une petite attention, un geste. On sait que rien n'est jamais acquis et que, bon, on fait attention dans cette relation-là.
Terrain sensible, n'est-ce pas ?
Voilà, c'est terrain sensible. Mais ça a servi à toute la famille parce que mon mari m'a dit l'histoire. Je m'en suis voulu parce que moi, je n'étais pas défendue au moment du conflit. Et c'était l'histoire de mes parents qui se répétait à nouveau.
Oh, mais là, vous évoquez un karma de famille. Alors là, vous évoquez un karma de famille.
Ah,
quand on ouvrira le dossier du karma, hein, il faut bien savoir que vous avez un karma de famille. Il faut bien savoir, par exemple, que s'il y a une faiblesse de famille, eh bien, les êtres vont saisir l'opportunité de cette faiblesse qui les concerne pour venir dedans. Hein, celui qui se laisse aller à la colère viendra dans une famille où règne la colère. Pour qu'en tant qu'enfant et donc revenant avec beaucoup plus de préparation, ils disent c'est vraiment une bêtise, une stupidité que la colère. Mais il peut retomber dedans. Et là, vous avez en karma de famille, vous avez un travail collectif à faire. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que la partie vert du vide de l'autre, c'est notre champ d'amour. CHAMP et CHANT. C'est pas facile, hein ? Et puis on a toujours tendance à dire, mais pourquoi j'ai mérité des tels êtres près de moi ? Ben voyons.
Déjà le mot pardon, disons, c'est... Enfin, moi, ça me... Si ça à l'envers, c'est un don par...
Oui, mais le piège, c'est comme nous pardonnons.
Nous devons, entre parenthèses, pardonner.
Non, c'est pas nous. On a toujours le choix.
Non, mais essayons de comprendre que nous sommes sur une grande scène comme des acteurs et que par conséquent, nous tenons des rôles. Il y a un très beau geste en Orient, si vous voulez, c'est comment, en fait, les êtres se disent bonjour. Hein, vous connaissez. En fait, je m'incline devant la vie qui est en toi. Mais c'est pas mis en pratique. Parce que si on ose faire ce geste-là, on l'assume après. Alors bien sûr, on pourrait dire hein, qu'il y a des êtres qui sont à des kilomètres de leur réalité intérieure. Mais il faut les aider justement. Et c'est en les aidant, en tendant l'autre joue, qu'on permet à ce monde de progresser.
Dans l'aïkido, par exemple. Mutuelle. On n'essaye pas de détruire l'autre. La force va d'un côté, puis ensuite c'est de l'autre.
Le sage utilise la force de l'autre qui l'agresse pour neutraliser l'autre. Il ne l'agresse pas, dis-tu. Alors, on reprend le sujet de la méditation. Alors, il y a plusieurs phases à la méditation. Vous allez d'abord avoir l'aspiration en tant que présence physique, avec cette lumière qui est en chacun de nous et qu'on appelle l'être de lumière, c'est-à-dire l'âme. Et bien évidemment, dans les premiers temps de cette saisie de l'être intérieur, vous avez ce qu'on appelle la phase mystique. La phase mystique étant entre la première et la deuxième initiation. C'est le temps des religieux, de toute religion. En fait, la lumière est tellement intense pour celui qui est en bas qu'il est en adoration vis-à-vis de ce ressentir de présence. Et bien évidemment, pour lui permettre de se détacher des passions qui sont les siennes, il va être isolé du monde et vivre des vies monastiques et de religieux. D'une certaine façon, il est isolé du monde pour ne pas être trop en tentation dans le monde. Les jeunes disciples aux lois de la vie s'isolent donc, sont isolés, pour pouvoir répondre à cet état contemplatif, mais qui, pour l'instant, pour eux, n'est pas bien clair en tant que compréhension. Et c'est le temps de la prière. Avec, malheureusement, beaucoup de voiles de clarté de la part de ceux qui leur servent de guide et qui ne leur donnent pas des réponses logiques. Quand l'être a franchi ce que je vous expliquais ce matin, la deuxième initiation, il va retourner dans le monde. Il devient un vieux disciple. Et lui, à ce moment-là, eh bien, il faut qu'il porte les richesses spirituelles qu'il a appréhendées. En d'autres termes, il doit mettre en pratique dans les espaces de vie terrestre ce qu'il a perçu comme étant nécessaire pour la réalisation des justes relations. Mais là, il est confronté avec le poids des lourdeurs de la vie terrestre. La réalité, c'est que sur le cinquième qui sont aujourd'hui dans le cinquième règne, seulement un cinquième tiennent bon. Comme j'ai pu vous l'évoquer, le problème, c'est que trois cinquièmes du cinquième règne jouent dans le camp adverse. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont développé leur personnalité. Donc leurs facultés sont tout à fait, comme on dit, au point. Leur intellect est brillant. Regarde ce monde, ils disent, ah ouais, réussir, accumuler des biens, des richesses, je devrais savoir faire ça. Moi. Puis ils sont pris dans l'engrenage. Ce qu'ils oublient, c'est que au-delà du correct, il y a un effet pervers à l'accumulation des biens et des richesses, qui s'appelle la peur de manquer. Et à partir de là, plus quelqu'un tombe dans le piège, plus il va avoir un appétit boulimique d'accumuler des biens.
Bernard, moi, ça fait deux fois là, déjà je comprends cette explication, mais c'est sans critique sur le fait que tu l'as dit déjà deux fois, c'est plutôt pour moi cette incompréhension du fait que la personne que tu décris, avec les mots que tu viens d'employer, ne semble pas être quelqu'un du cinquième règne. Je ne vois pas le passage.
Si, ça veut dire qu'en son temps, il a fait une série de vies où il est sorti à nouveau de son isolement et puis il est replongé dans le monde.
Donc il y a régression quelque part.
Mais attends, c'est le principe de liberté.
Oui, bien sûr.
Tu ne peux pas dire dans cette vie j'ai progressé. Et parfois tu peux dire malheureusement en tant qu'être tu vas dire j'ai régressé.
Ce que j'arrive pas à comprendre c'est qu'on les considère ces personnes que tu viens d'écrire sont encore décrites comme des gens du cinquième règne. Il y a une case.
Absolument, je vais aller plus loin dans ton incompréhension. Tu sais que ceux qui pratiquent la magie noire, comment ils sont appelés ? Pourquoi frère, à ton avis ? Je te montre l'extrême de l'erreur. En fait, si tu veux, le principe de liberté, c'est que tu auras toujours ceci, le chemin de droite ou le chemin de gauche. C'est-à-dire tu retournes, tu rétrogrades. Le principe du frère noir, je vais t'expliquer. La plupart du temps, voilà ce qui se passe. L'être est arrivé dans une vie où il sait que sa pensée est pouvoir et qu'à partir de là, il peut manipuler son destin. Il est libre, il peut manipuler. Ça veut dire que, un, il connaît comment se servir des forces lunaires, deux, comment échapper au karma. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? S'il ne veut pas accepter la traversée du désert qu'implique à l'enfant prodigue, n'est-ce pas ? On a tous à traverser le désert. C'est-à-dire, ce que Dieu aime, il les châtie, en terminologie chrétienne. Ça veut dire qu'en fait, l'enfant prodigue dit « Ok, j'ai compris, il y a des lois de la vie, mais pour entrer à la maison du Père, il faut que je solde mes comptes. » Donc, phrase au troisième degré de Maitreya, les guides de la maison du Père, seigneurs de destinée, seigneurs de karma, vont lui mettre les épreuves libératrices, non pas pour le punir, simplement pour dire « Attends, là, tu as encore montré quelques faiblesses de comportement. » Donc, on va te mettre en situation pour que tu montres que tu as la maîtrise. Ce n'est pas punitif. C'est simplement de se trouver dans une situation pour montrer qu'on est vraiment maître à l'équilibre des choses. Ils refusent. Ils ne veulent pas. Ils manipulent. Alors, ils vont tomber lentement mais sûrement dans l'aspiration d'entités noires qui vont les aveugler et à partir de là, eh ben, ils vont lentement mais sûrement tomber dedans et être accaparés. S'ils persistent dans l'horreur, quand tu vois Hitler, tu vois comment un frère noir est allé au bout du bout. Tout ce qu'ils risquent, s'ils ne veulent pas reprendre le bon chemin avec pour eux, imaginez,